En 2 ans à peine et 3 EP, il s'est imposé sur la scène rap française à coups de punchlines assassines, de clips percutants et d'un goût certain pour la provocation. Adoubé par Booba, le kid de Libreville entend bien conquérir son trône. Qu'est-ce qui fait courir Benjamin Epps ?
Chantal Leroux.
Bonjour Benjamin Epps.
Bonjour, comment allez-vous ?
Très très bien, merci d'être là avec nous dans ce studio. On est ravis de vous recevoir alors merci. Que vous préparez la sortie le 7 avril de votre premier album, La Grande Désillusion, chez votre label, Mokabe Nation.
C'est ça, exactement.
Mokabe du nom de votre village natal ?
Mokabe du nom du village natal de ma mère.
D'accord. Ouais. Est-ce que vous vous sentez un peu fébrile ?
Totalement. À l'approche de la sortie de l'album, je sens la pression. C'est une période très, très difficile. Très, très difficile.
Bon, alors on a l'impression que tout est allé très vite pour vous depuis la sortie en 2020 de votre premier EP. Mmh. Vous avez enchaîné quelques 70 concerts à travers la France, dont l'Élysée-Montmartre à guichet fermé en octobre dernier. Mmh. Vous avez multiplié les collaborations, Dinos, Roca, Selassou, Loose and the Yakuza ou encore Youssoupha. Vous avez remporté l'an dernier le prix du meilleur flow international au prestigieux festival américain Beat Hip Hop Awards. Mmh. Et c'est-à-dire que vous avez fait mieux que MHD, Joker et Aya Nakamura, qui, eux, avaient été nominés dans le passé, mais n'avaient pas décroché le trophée.
Ouais.
C'était une grande satisfaction ce jour-là.
C'était la consécration pour moi, parce que le petit garçon de Libreville qui se retrouve à Atlanta autour de ses artistes préférés, c'était un rêve éveillé, il est devenu réalité. Aujourd'hui, je ne réalise toujours pas, d'ailleurs, parce que... pour tout ce que ça représente, tout simplement. Et voilà, c'était la consécration. Pour me rassurer, je me dis, c'est pas une fin en soi. Il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles chercher autre chose. Je me mets pas la pression, mais...
Mais est-ce que vous parvenez à garder les pieds sur terre ? Parce que vraiment, tout est allé très vite.
Il faut garder les pieds sur terre. Quand on est un jeune rappeur, il faut garder les pieds sur terre. Michael Jackson a existé. Donc, si on ne garde pas les pieds sur terre avec 3 EP, un trophée et un prochain album... La suite va être un peu difficile.
Alors, ce premier album s'appelle La Grande Désillusion, comme le son qui ouvre l'album. Alors, ce titre peut sembler un peu paradoxal vu votre trajectoire. Mmh. Expliquez-nous cette contradiction apparente.
La contradiction naît du fait que, justement, plus on prend de l'âge, plus on réalise que la vie peut être très, très difficile.
Prendre l'âge, entre guillemets. Vous avez bientôt 27 ans
exactement,
seulement.
Exactement, je suis tout jeune, mais voilà, il y a des choses qui se font, qui se défont. Et là, par exemple, on vit une période d'incertitude. On vit la guerre en Ukraine. Je pense qu'il y a plein de gens qui se posent plein de questions. Et moi, je me pose plein de questions en tant que père, en tant que frère, en tant que fils, sur l'avenir de la planète, sur comment je vis, comment vivent mes proches. J'étais récemment au Gabon. Et d'ailleurs, je dis la situation nous échappe parce que, justement, c'est le constat que j'ai fait en rentrant au Gabon. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, la grande désillusion parce que plein de choses autour de moi ne sont malheureusement plus roses comme elles l'étaient avant.
Et dans cet album, vous aviez envie de vous livrer davantage. Vous avez l'impression que les gens vous connaissent peut-être par vos punchlines, par vos clips, évidemment, mais pas la vraie personnalité que vous êtes.
Je ne sais pas si j'avais envie de me livrer. En tout cas, ce n'était pas l'intention de départ. Au départ, je voulais vraiment capturer le moment dans lequel je vivais. Jeune père qui avait des difficultés au départ pour payer son loyer, dans mes relations avec mes frères, avec mon entourage, mon environnement, mon quartier, avec des amis d'enfance qui sont soit morts, soit en prison. Il y avait, pour moi, cette volonté-là de capturer le moment. Et évidemment, si tu captures le moment et que tu exprimes tes émotions, ce que tu ressens, eh ben, tu parles de toi, finalement.
Mais la tonalité de l'album, elle est assez sombre,
oui,
quand même.
Elle est assez sombre. C'est le cas de le dire parce que tout simplement, ces 8 derniers mois, j'ai traversé des moments difficiles, Faut dire qu'il y a 2 ans, le succès m'est un peu tombé dans les mains comme ça. Je ne savais pas trop quoi faire avec. Et j'ai quand même réussi à trouver comment gérer tout ça. Et justement, cet album-là a été un exutoire pour moi parce que ça m'a permis de dire des choses, de parler de moi et de ce que je vivais et ressentais à ce moment-là.
Y'a comme un malaise, du mal à trouver ma place. J'ai su jeter ma laisse, si je marche, ma faim, ma soif. Je veux juste sauver mon âme, car je peux pas sauver ma race. Tout cet argent ne pourra pas soigner le marasme dans ma tête. De cette courte vie en disposée à plaisance. Que nos familles soient toutes bénies de nos présences. Que nos actes soient le résultat de nos promesses. Que les miens soient plus humbles avec les leurs. Et ma représentation physique, c'est bien tout ce qu'ils me connaissent. Même pas assez honnête pour admettre qu'ils méconnaissent. Ta vraie nature, qui tu es, est précieux comme une âme. Emily a fait son coming out. Tout le monde au quartier la regarde comme si c'était une meurtrière. Mais s'isoler du monde, la protéger comme une arme. La vérité a franchi qu'ils disent, mais rien n'est moins sûr. Traîner, nettoyer à la rinsure, vivre. J'ai ces voix dans ma tête qui me disent de m'accrocher. Ces voix dans ma tête qui me disent de m'accrocher, de vivre. Une seule vie et beaucoup de questions. Une seule chance.
Oui, on a qu'une seule chance, trop de stress. Oui, on a qu'une seule chance, trop de stress. Stress, stress.
J'étais là le jour où son père a pris son fusil, voulait se foutre en l'air pour avoir perdu un gosse. Il veut rien entendre. Avec Joe ce soir-là, c'était dur à croire. Il a provoqué un mec. Ils sont revenus à plusieurs. Ces Renois voulaient nous faire. L'un d'entre eux a brisé une bouteille et ramassé du verre. Échauffourée, expiration forte et grand silence. Quelques bruits de pas qui s'éloignent, suspense immense. Joe dans une mare de sang, là sur le sol. Mon premier réflexe, c'est chercher mon téléphone. Crie à l'aide, mais il est tard, personne m'entend. Voilà tenant dans mes bras mon frère en sang. Et quand je dis mon frère, c'est parce qu'on a grandi ensemble. Sa mère connaît la mienne et je considère ses enfants comme mes enfants. Quand j'ai annoncé la nouvelle à son vieux, il m'a pris dans ses bras, il a pleuré et m'a demandé de vivre. J'ai ces voix dans ma tête qui me disent de m'accrocher. Ces voix dans ma tête qui me disent de m'accrocher, de vivre. Une seule vie et beaucoup de questions. Une seule chance.
Oui, on a qu'une seule chance, trop de stress. Oui, on a qu'une seule chance, trop de stress.
La drogue m'a pris des frères et c'est tragique. On jure de faire le bien quand la mort gravite. Nous voir nous déchirer, c'est ce qu'ils veulent. Maman, moi je veux pas mourir jeune. Simon ne veut pas mourir jeune. Le destin a déjà repris mon frère, Nel. Si je pars avant mon heure, le but c'était de vouloir intensément vibrer de ce récit éternel. Vivre.
Benjamin Epps, quand vous écrivez dans La Grande Désillusion, le showbiz me guette, mais c'est juste un nid de serpent. 3 tentatives, je me sens toujours pas apprécié. Ça résonne un peu bizarrement quand on se souvient de votre côté assuré, déterminé. Mmh. Vous vous étiez même autoproclamé meilleur rappeur de France. Ouais. Donc c'était pour rire, c'était de la provocation, c'était quoi ?
Non, c'est pas pour rire, c'est pas de la provocation, c'est ce que je ressens. Je le ressens encore aujourd'hui, sauf que heureusement ou malheureusement, la musique, c'est aussi des émotions. C'est-à-dire, on ne se sent pas fort tout le temps. On se sent vulnérable des fois. Et j'ai le sentiment de m'être senti très vulnérable en faisant cet album-là. C'est pour ça que plein de gens peuvent avoir l'impression que le tableau est très sombre. Effectivement, il l'est par moments, mais j'ai toujours le sentiment que je suis le meilleur rappeur de France et ça ne change pas.
Alors dans Plié en 5, vous aviez cette punchline. Bonne nouvelle, le meilleur rappeur de France est noir. Mauvaise nouvelle, le meilleur rappeur de France, c'est moi. Est-ce que vous travaillez vos punchlines ou est-ce qu'elles vous viennent spontanément ?
Non, je pense que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'observation. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, il y a tellement de choses à capter, tellement de choses à écrire. Et non, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et d'observation.
Alors, il y a quelqu'un qui se débrouille pas mal côté punchline, c'est Kylian Mbappé.
Ouais.
Vous avez intitulé un morceau « Vous n'êtes pas content, c'est pareil
ouais. »,
en référence à son « Vous n'êtes pas content, triplé
ouais. »,
voilà, quand il jouait à Monaco.
C'est ça.
Vous vous sentez des affinités avec Kylian Mbappé ?
Oui, totalement. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il est jeune, il est sûr de lui. Il fait très attention à ce qu'il dit. Voilà, c'est dans une génération et dans une époque où tout le monde a tout le temps quelque chose à dire. Je trouve qu'il prend la parole quand il faut prendre la parole et souvent pour les bonnes causes. Donc c'est quelqu'un que je respecte en dehors du terrain et sur le terrain. Voilà.
Et vous, vous auriez aimé être footballeur ?
Ah oui, c'était mon rêve d'enfance. J'aurais voulu être un attaquant, jouer dans les plus grands clubs en Europe. Mais je crois que j'ai trouvé ma voie aujourd'hui, je suis content.
Alors justement, on peut parler de votre écriture. Est-ce que c'est la musique qui vous inspire les mots ou l'inverse ?
C'est la musique qui m'inspire les mots, ouais. Définitivement. J'arrive pas à écrire si je n'ai pas la musique en amont. Je considère la musique comme un esprit. C'est-à-dire que quand j'écoute la musique, quand j'entends une musique, j'ai l'impression qu'elle me dicte le chemin, elle me guide vraiment et elle me donne les thèmes, les thématiques et les bons mots. C'est pour ça que je peux pas travailler sans la musique.
Et est-ce que le français pour vous est une langue qui se marie bien avec le rap ?
Ah, totalement, c'est une langue hyper riche et il y a tellement de choses à faire avec la langue française, mais pas que le rap, la poésie. D'ailleurs, on a un grand pays de poésie. Des gens du continent avant moi, des Senghor, des Abdou Diouf, etc. C'était des poètes et c'est des gens qui maniaient magnifiquement bien la langue française. Et je trouve que le français, c'est une langue hyper, hyper riche et avec le rap, ça passe.
Quels sont vos auteurs de prédilection, ceux que vous lisez ou relisez ?
Alors, je ne suis pas un très, très grand lecteur. Je crois que je dois lire, 3 livres à l'année, grand max. Et là, je lisais l'autobiographie d'un rappeur américain qui s'appelle Prodigy. Et pour le coup, il est en anglais. Et dernièrement, j'ai relu Comment guérir ses blessures émotionnelles. Alors, comment on appelle l'autrice ? Je vais me faire taper sur les...
Ben moi aussi, je donne ma langue au chat. Vous disiez que vous aviez lu en anglais le livre sur Prodigy.
Ouais.
À 18 ans, vous avez quitté votre Gabon natal.
Exactement.
Pour l'Afrique du Sud. Mmh. Vous êtes resté un an pour apprendre l'anglais, justement.
C'est ça.
Pourquoi est-ce que c'était vital pour vous de maîtriser l'anglais ?
Parce que le hip-hop, parler anglais, pouvoir l'entendre, pouvoir le comprendre, c'est vital pour... pouvoir capter l'essence même de la culture hip-hop. C'est-à-dire que la culture hip-hop est née dans le Bronx, aux États-Unis à la fin des années 70. Et je pense pour capter toute l'essence de ce mouvement-là, j'avais besoin de ça. Et même pour être un peu plus en phase avec les lyrics des gens que j'ai idolâtré à une époque de ma jeune vie, par exemple 50 Cent, Jay-Z, Nas, Damien Marley, Stephen Marley, Bob Marley, plein de gens, c'est-à-dire qui sont pas forcément des artistes hip-hop mais qui sont affiliés au hip-hop. Et j'ai le sentiment que j'avais besoin de la langue anglaise, et même pour moi, pour ma culture générale, je pense que c'était hyper important. Et je me suis déjà retrouvé dans des situations où, de job d'étudiant, j'avais besoin de l'anglais. Et voilà, ça m'a sauvé la vie. Donc, d'y aller pour apprendre l'anglais à cause du hip-hop, à finir par parler anglais et à l'exercer dans les situations réelles de la vie.
Mais en revanche, vous continuez à rapper en français ?
En revanche, ça m'a traversé l'esprit, mais ça a été de courte durée. Le français, pour moi, c'est la plus belle langue pour le rap, quoi.
La situation nous échappe. Doudou est mort. Larry a perdu sa mère. Campbell est mort, André est mort aussi. Biban est sorti de prison. Dan vient juste de se faire arrêter pour possession de drogue. Oh man. L'environnement est hostile, la haine du prochain. On tue le vendredi et le dimanche, on dit alléluia. Tout allait bien chez tonton Bouya. Moi je rentrais des cours épuisés. Le quartier plein à gosse, le monde entier peut nous mépriser. La police fait ses rondes dans Mitsubishi 4x4 pour nous maîtriser. Une machine fichette dans la main de Tata. À 30 ans, on est fini, pas de jus, pas de finesse. Le sport pour des cuves et la wange. Et 4 Guinness, torche le cul avec le papier des news, pas de Kleenex. Les gosses pavanent avec la mort, vos ailes, ce n'est pas la norme aux ailes, sida mystique. Et tient en doute chaque fois que les grands souffrent, disparition. Et pédophilie, on le vend en poupe. Polydani cherche le way, négro toujours habillé. Capsus s'est rangé, Larry s'est un peu éparpillé. Tous cherchent le papier, le colo. En renoncé au dolo, chaque CFA veut grappiller. Dieu bénisse leurs efforts. Samedi dernier, y'a un négro qui s'est fait. Son grand frère a pris sa revanche à sortie de. La police tire sur les manifestants. Sans se poser de questions, les politiciens mentent en te regardant dans les yeux. Les nouveaux négros ne garderont pas les vieux. C'est belle vue, tu veux le respect, il faut le prendre. Les poings serrés comme Kimbo. Y'a pas de Black Power, la révolution tous les 7 ans pour mes kings. Tout est perdu pour mes gens, pour mes kings. L'environnement est hostile pour mes kings. Tout le monde ne verra pas la lumière, king. On est piégé dans ce trou.
Ici c'est belle vue, la fin, le terminal. Ça commence bien, ça finit mal. Si on fait du mal, faut nous pardonner. On n'a pas le choix, man, on va charbonner non-stop.
Welcome to Belle Vue, avec un jeu de mots sur Belle. Vous expliquez, exactement. Benjamin.
Alors Belle, normalement, elle, ça s'écrit B-E-2-L-E. Et moi, je l'ai écrit B-H-E-2-L, qui en traduction littérale signifie l'enfer en anglais. Et voilà, donc Belle Vue, c'est un espèce de.
C'est un quartier de Libreville, au Gabon, où vous avez grandi.
Exactement, c'est le quartier dans lequel j'ai grandi, dans le 3e arrondissement de Libreville.
Dans ce son, vous en dressez un tableau très sombre. Ici, c'est Belle Vue, la fin, le terminal. Ça commence bien, ça finit mal. Si on fait du mal, faut nous pardonner, on n'a pas le choix. Vous gardez quel souvenir de votre enfance à Belle Vue ? Est-ce que la vie y était aussi difficile qu'aujourd'hui ?
En grandissant, la vie était. Tout était rose, tout était facile. C'est-à-dire que. Les voisins, c'était des gens hyper aimables. Les gens avec qui j'ai grandi dans le quartier, on avait plein de rêves, on avait plein de promesses. Et en grandissant, plus on grandit, plus on se rend compte qu'il y a plein de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens, que la vie n'était pas si rose que ça et qu'en fait, plein de gens étaient au chômage. Et ça, c'est le quotidien, pas seulement de Belle Vue, mais d'à peu près tous les quartiers de Libreville. C'est-à-dire que Belle Vue, pour moi, c'est... C'est le comment dire ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est, je parle de Belle Vue parce que c'est le coin que je connais le mieux, mais si on fait un peu le tour de Libreville, on se rend compte que plein de quartiers, plein de gens vivent la même chose, les jeunes qui sont au chômage, les conditions de vie qui se dégradent, les hôpitaux qui se dégrade. C'est effectivement un tableau assez sombre, mais assez réaliste quand même.
Alors, vous êtes retourné pour la première fois depuis 8 ans à Libreville pour donner un concert le 25 mars à l'Institut français. Ouais. Qu'est-ce que vous avez éprouvé en remettant les pieds sur le sol gabonais ?
Beaucoup d'émotions, une fierté. Surtout, je savais que j'allais retrouver mes parents, mes frères, que je n'avais pas vus. Ça faisait 8 ans pour le coup. L'accueil à l'aéroport était chaleureux. J'ai revu des amis d'enfance. J'ai pas pleuré devant eux, mais une fois que je suis monté dans la voiture, j'ai pleuré un peu parce que c'était lourd, c'était difficile de les revoir, de ne pas revoir certains aussi, parce qu'en prison, parce que malheureusement décédés. Mais si je dois faire un bilan, c'était plutôt positif. Le pays a changé, comme je disais, hors antenne, ça dépend de la perspective qu'on a. Mais voilà, le pays a changé dans tous les cas. Les gens ont changé, les conditions de vie ont changé. C'est différent.
Quand vous étiez enfant, quelle place occupait la musique dans votre famille ?
La musique a toujours été comment dire ? Au premier plan. C'est-à-dire que ma mère, grande fan de musique, mon père, grand fan de musique, mes frères, grands consommateurs de hip-hop. J'ai l'impression que j'ai été dans la musique. Je peux même pas mettre une date exacte, mais voilà, je suis né dans la musique, j'ai toujours été dans la musique.
Et est-ce qu'il y a eu un moment ou pas où vous vous êtes dit « le rap, ce sera ma vie et je veux être le meilleur rappeur du monde »
Je ne me suis pas forcément posé cette question-là comme ça. Je n'étais pas plein de certitudes, mais j'ai toujours su que c'est ce que je voulais faire en vrai. Parce que il y a quelques années, j'étais parti pour devenir professeur des écoles. Et en faisant la formation, c'est un master qu'on appelle master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, hein, master MEF, premier degré. Je regardais les enfants pendant les stages et je me disais, ces gamins-là qui sont devant moi, c'est le futur de c'est eux le futur. Et il faut que les gens qui aillent faire cette formation, il faut qu'ils y aillent avec avec la conviction qu'ils ont vraiment envie de le faire. Et je me suis regardé un matin dans le miroir et j'ai réalisé que c'est pas ça que je voulais faire et que voilà, qu'il fallait laisser la place à ceux qui voulaient vraiment, vraiment occuper cette place-là. Et j'étais convaincu qu'il fallait que je tente ma chance avec la musique.
Quand on parle de votre rap, on le décrit comme du rap old school. Ouais. Alors pour les profanes, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le rap old school qu'écoutaient vos trois frères, je crois?
Alors old school, en général, c'est tout ce qui a fonctionné un peu avant les années 2005-2006. Voilà, c'est ça que les gens appellent old school. C'est des sonorités un peu entre 85 et 92 BPM. Typiquement, pour avoir un exemple, c'est un style un peu à la NTM, IAM, Hill et Cass, X-Men à l'époque, Oxmo Puccino, etc. Moi, j'aimerais pas le c'est pas la description que je ferais de ma musique. Je dirais que je rappe tout simplement et que finalement le rap, il y a pas de old school ou de new school, c'est soit c'est bon, soit c'est pas bon.
Mais en même temps, il y a des niches dans le rap.
Oui, voilà, il y a des niches, il y a des aujourd'hui justement le rap a cette particularité là qu'il s'est ouvert à plusieurs sous-genres, ce qui fait que dans le même milieu, on a des gens comme Jul, et on a des gens comme Akhenaton, et on a des gens comme
Lala Ace,
Dinos, etc. Pourtant, c'est pas le même rap, c'est pas le même registre, mais tout ça fait partie du rap, et c'est ça la force du mouvement aujourd'hui, je pense.
Quel rôle a joué votre grand-mère maternelle Caroline qui était je crois guérisseuse?
Exactement.
Quel rôle elle a joué dans votre enfance? Est-ce qu'elle vous a poussé à croire en vous?
Caroline nous a toujours, oui, elle nous a toujours poussé à croire en ce qu'on voulait, faire. Moi, je me rappelle de cette discussion un peu avant mon arrivée en France, où elle me dit « pars et ne te retourne pas, et fais ce que tu as à faire ». Voilà, c'était sa façon à elle de me donner sa bénédiction, et c'était aussi sa façon à elle de me dire, et elle me l'a dit d'ailleurs, « quand tu rentreras, tu ne me trouveras pas ».
Et c'est ce qui s'est passé.
Elle est décédée un mois après mon arrivée en France. Voilà. Et je crois qu'elle est avec moi tout le temps parce que c'était une femme bienveillante, puissante. Et voilà, c'est ma façon à moi de lui rendre hommage.
Dans nos murs, c'est un autre son de votre album La Grande Désillusion avec Angélique Kidjo en guest star. Comment vous avez sollicité Angélique?
Angélique Kidjo, pour moi, c'est... Alors, j'aime pas donner d'équivalent parce que les artistes sont différents, mais c'est un peu Beyoncé à l'échelle africaine, c'est-à-dire, et mondiale même. C'est-à-dire que c'est une icône de...
Oui, parce qu'elle collectionne les récompenses.
Elle vient de recevoir une récompense.
Le Polar Prize.
Exactement. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Et au moment où je faisais l'album, je voulais faire un morceau qui ressemble avec un peu de sonorité de chez moi. C'est-à-dire qui soit un morceau un peu connoté afro, on va dire. Et je ne voyais pas meilleur guest que qu'Angélique Kidjo pour ce qu'elle représente, pour toute la force qu'elle a toujours donnée à la musique africaine. Et quand la connexion a pu se faire, le morceau s'est fait. Ça a été le morceau le plus facile à enregistrer de l'album. C'est-à-dire, ça s'est fait en 4-5 jours. Elle avait enregistré son couplet, le pont. On s'est revus lors de l'hommage à Tony Allen. À Paris, et c'est une femme adorable.
Vous avez aussi sollicité MC Solar pour un autre morceau.
Exactement.
Libre.
Libre. MC
Solar. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, MC Solar?
MC Solar, c'est le rap français. Ça commence avec MC Solar. Avant MC Solar, il n'y a pas de rap en France. Il y a la culture hip-hop, mais il n'y a pas de rap en France. Et pour moi, c'était important pour le premier album d'avoir, entre guillemets, la bénédiction d'MC Solar. Voilà, on va appeler ça comme ça.
Alors, le thème de la famille est très présent sur ce premier album. Oui. Dans le titre sur lequel Angélique Kidjo fait un featuring, vous écrivez « Quand le mauvais œil de l'ennemi me lacère, je trouve le réconfort dans la chair de ma chair. Dans les yeux d'un gosse, le monde paraît si beau. » Est-ce que la paternité vous a changé?
Oui, la paternité m'a changé. Je trouve que je suis devenu un peu plus doux, je trouve. Mon regard sur les enfants a changé. C'est-à-dire que je pense que quand on n'en a pas soi-même, on ne mesure pas la responsabilité que c'est d'avoir des enfants, de tout ce que ça engage, de tout ce que ça implique. Et aujourd'hui, je prends un peu plus soin de moi parce que je ne suis plus seul. Il y a quelqu'un qui littéralement dépend de moi et de sa maman aussi. Et voilà, ça, on remet plein de choses en perspective. La paternité, ça change la vie.
Mais vous avez toujours porté beaucoup d'attention aux enfants, parce que dans Dieu bénisse les enfants, vous rappiez « Trop de parents démissionnent, donc les démons se servent, regarde comment les gosses se perdent. Ouais. » Et dans Libre encore, vous dites « On met en danger nos enfants, on poste leurs photos pour des likes. »
Oui, parce que déjà, Dieu bénisse les enfants, je l'ai écrit justement parce que j'allais être père. Mais pas seulement parce que je suis un Africain et la famille africaine, avant d'être le père biologique, mes neveux et mes nièces sont mes enfants. Voilà, c'est comme ça que ça marche chez nous. Et voilà, c'était juste moi qui exprimais mes craintes, mes peurs vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que j'avais fait ce morceau « Dieu bénisse les enfants ». Et dans le morceau avec MC Solar, oui, c'est aussi ma façon à moi de mettre les gants et d'essayer de protéger les gens que j'aime, et en l'occurrence mon fils.
Vous avez déclaré « Le rap doit faire son autocritique, suivre les évolutions de la société, sans censure, mais prendre le chemin du respect de tout le monde ». Vous faisiez allusion à quoi ?
Bah, je fais allusion à la facilité que les rappeurs ont à dire des grossièretés, des mots qui peuvent parfois dénigrer des communautés. Je pense notamment à la communauté LGBT, je pense aux femmes aussi.
On dit souvent que le rap est misogyne.
Exactement, on dit souvent que le rap est misogyne. Donc, alors, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas sombre non plus. C'est-à-dire qu'il faut montrer beaucoup, beaucoup de respect envers les autres. C'est ce qui nous permettra d'avancer tous ensemble.
Est-ce que la notoriété est parfois lourde à porter? Est-ce qu'elle complique les rapports avec les autres?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'ego aussi. Donc, quand ça commence à fonctionner, il y a plein de gens qui se sentent... le succès, ça ne plaît pas à tout le monde. La réussite en général, quand je dis réussite, on pense à la réussite sociale, mais moi, le fait de sortir un premier album, pour moi, c'est une réussite. Et ça plaît malheureusement pas à tout le monde. Il faut composer avec les égos, avec les gens, et c'est pas toujours facile.
Merci beaucoup Benjamin Epps d'avoir répondu à notre invitation. La Grande Désillusion, votre nouvel album, sort le 7 avril et vous serez demain au Festival Chorus de Boulogne-Billancourt, près de Paris, avant de poursuivre votre tournée. Merci à Guillaume Ploquin à la réalisation et à Raphaël Pluskva à la programmation. À lundi.